À tout à l'heure.
Bonjour les terriens, c'est Noël de Gérardmer. J'ai 43 ans. Je suis née à Gérardmer. Je l'ai quittée à 18 ans. Mais une fois devenue maman, ma forêt et ma montagne qui m'ont vu grandir m'ont lancé un cri de rappel. Aujourd'hui, je me sens privilégiée de revivre ici, en cette période de crise écologique et sociale. Après avoir changé des pratiques dans mon mode de vie, avec l'association Les Incroyables Potagers qui gagne à être connue, nous avons construit des bacs potagers au pied de mon HLM, obtenu du bailleur social un récupérateur d'eau et un composteur. Et aujourd'hui, les enfants et les adultes se sont réconciliés avec les guêpes, les abeilles. Notre remblai s'est transformé et abrite araignées, lombriques et cloportes. Et le plus beau résultat, c'est aussi le lien social et la solidarité qui a émergé de tout ça au niveau du voisinage. Voilà les terriens, je vous souhaite une excellente semaine dans nos Vosges. Au revoir.
Marcel Coultois de Brive-la-Gaillarde. Eh ben, encore ce démago de Macron qui autorise les chasses traditionnelles. Président toujours à genoux devant les chasseurs. Voilà, au revoir, à bientôt.
Bonjour toute l'équipe de Mathieu. Je voudrais remarquer, je vous écoute sur YouTube là, et dans le répondeur de, je pense, vendredi, il y a des gens qui font de la pub pour vendre des bouquins, leurs bouquins. Alors, c'est quand même pas l'objet du répondeur, à mon avis.
Bonjour Mathieu et à toute l'équipe de la Terre au Carré. C'est Claude Vanoni qui vous souhaite la bienvenue dans les Vosges. Oh, on va passer une bonne semaine grâce à vous. Oh là 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 là, bravo et merci.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Imaginez un ciel bleu éclatant, une forêt à perte de vue se reflétant en miroir dans les lacs. Le feuillage des arbres se décline dans toute une palette de couleurs flamboyantes allant du jaune à l'or. En passant par le rouge et l'orange, on pourrait se croire au Canada. Et pourtant, ce spectacle a lieu en ce moment-là, sous nos yeux, à 2h30 de Paris par le train. Nous sommes donc dans les Vosges pour la première des 4 saisons de la Terre au Carré. Pendant toute la semaine, on va vous faire vivre donc dans le massif vosgien en allant à la rencontre de ses habitants. On va vivre cet automne avec tous ceux qui s'engagent pour la préservation de la nature. Chaque jour, nous ferons escale dans un lieu différent pour comprendre comment ici, on se mobilise sur le front du climat et de la biodiversité. Et pour démarrer cette série d'émissions, eh bien, nous sommes dans le village du Haut du Taux avec le photographe animalier Vincent Munier. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci infiniment de nous accueillir chez vous. La vue, je le disais, on va la décrire, est absolument époustouflante pour cette première étape vosgienne. Donc, eh bien, nous allons passer cet après-midi avec vous dans cette région que vous connaissez si bien. On fera connaissance avec votre père, Michel, qui viendra nous rejoindre. C'est aussi un défenseur passionné de la nature. Et puis, bien sûr, Camille Cronier et du voyage. Bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors, ces 4 saisons de la Tête au Carré, ce sont aussi
la terre.
Voilà, ce sont aussi ces luttes que vous allez nous présenter toute la semaine.
Oui, avec aujourd'hui celle pour la survie du grand tétras. Le grand tétras, c'est l'oiseau emblématique des Vosges. Il est en danger.
Voilà, et puis à la fin de chaque émission cette semaine, eh bien, on vous fera découvrir les entreprises de la région qui essaient de minimiser leur impact sur la nature avec des pratiques plus vertueuses. Nous irons aujourd'hui à Rue-sur-Moselle où une usine de textile fabrique des jeans 100% vosgiens. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré vosgienne et vous nous rejoignez bien sûr comme tous les jours avec vos messages, vos questions en direct sur la page de l'émission et sur l'appli France Inter. Valérie Ayestaraï réalise l'émission préparée par Lucie Sarfati, Benoît Gégou, Romain Lukens et Jérémy Thuil nous accompagnent à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour l'équipe de la Terre au Carré, bienvenue dans les Vosges. La Terre au Carré, saison 1. C'est l'automne dans les Vosges sur France Inter.
Avec vous, Vincent Munier, pour cette première étape ici au Haut du Taux, je le disais, 800 mètres d'altitude, dans le massif vosgien, sur le versant nord de la vallée de la Moselotte. Ça veut dire quoi le Haut du Taux alors exactement ?
Le Haut du Taux, on pourrait presque dire le toit du monde, bien qu'on est loin de l'Himalaya. Mais voilà, c'est ici que j'ai un peu fait mes premiers affûts, mes premières armes en tout cas. Voilà.
C'est ici que vous avez grandi, donc c'est ça, dans cet environnement incroyable ?
Oui, exactement, grâce à mes parents qui nous ont vraiment ouvert les yeux sur la beauté de ce monde autour de chez nous. Donc que ce soit la Moselle, la Moselotte, comme vous le disiez, et puis ces vieilles forêts de ce vieux massif.
Alors justement, Vincent Mignet, est-ce que vous pourriez juste nous faire une petite carte postale sonore en nous décrivant ce qu'il y a autour de nous comme paysage? Là, on est en train de marcher sur votre terrain.
Ben là, j'ai eu la chance de vraiment trouver une vieille ferme vosgienne que j'ai retapée. Et donc là, on est en alternance entre la forêt, c'est souvent de la hêtraie sapinière, et puis ici, une ouverture avec c'est pâturé, il y a un peu de vaches, mais une alternance. J'essaye de refaire un milieu assez varié. Donc on a des noyers, j'ai replanté pas mal de haies, des petits murets pour tenter d'abriter l'hermine. Et puis je vois petit à petit, ça fait maintenant 6 ans que j'habite ici, de plus en plus d'espèces nouvelles apparaître grâce un petit peu à cet aménagement.
Qu'est-ce que vous voyez alors comme animaux sous vos fenêtres, en plus de votre paon, de vos poules et de vos vaches? Vous avez l'air très heureuse d'ailleurs, entre parenthèses, on les voyait gambader dans le champ tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que vous avez alors comme animaux?
Ce sont les vaches des amis paysans qui sont un peu plus bas, qui me permettent un peu d'entretenir le paysage. Mais là, j'avoue que j'ai une situation privilégiée. J'ai des renards, j'ai des blaireaux, des martres, des fouines. J'ai le cerf, bien sûr, le cerf. Et ça, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines à peine, d'avoir eu des cerfs qui sont venus bramer devant la maison quasiment.
Ouais. Et ça, c'est votre spectacle quotidien ici alors?
Ben, quotidien, oui. Bon, après, c'était un rêve de gamin de pouvoir... Voilà, être dans un environnement comme celui-ci et d'entendre la saison des amours de cet animal incroyable depuis la fenêtre, c'est quand même quelque chose d'assez chouette.
Ouais. C'est vraiment dans cet environnement que vous avez grandi, en allant très tôt sur les traces des animaux sauvages ici?
Oui, c'est ça. Donc des premiers affûts, c'était encore une fois grâce à mon père, hein, à l'âge de 12-13 ans. Et c'est lui qui m'a vraiment initié à ça. Avant la photographie, c'était surtout la manière de tenter d'approcher les animaux sauvages sans les déranger. Ça, c'était vraiment... je lui dois une fière chandelle de m'avoir vraiment appris ça avant vraiment la photographie. Et c'est ici, oui, mes premières nuits sous un sapin, c'était pas très loin, pour tenter d'observer le grand tétras et puis tout plein d'autres espèces.
Et alors, votre première rencontre, c'était avec qui?
La première rencontre, c'était un chevreuil. C'est vraiment ça qui a été un déclic, c'est le cas de le dire, et qui m'a permis vraiment d'être complètement fasciné, passionné par les animaux sauvages. Et étant gamin, je passais mon temps dans la friche derrière chez moi, un peu plus loin, forêt. Et puis essayer de mélanger un peu le côté un peu indien, un peu sioux, le côté pisteur, de lire un peu toutes les traces, et puis d'essayer de saisir ces moments magiques, parce que souvent c'est ça, quoi. On a l'impression que c'est presque pas réel, tellement c'est éphémère et que c'est une silhouette qui est extrêmement furtive. Et l'outil qu'est la photo, ça permet de figer ça et de s'y replonger et de partager ça avec les autres.
On est près de l'abreuvoir, là, ici, donc sur le chemin qui part un petit peu vers les hauteurs en quittant la maison. Alors, j'ai repéré des champignons, d'ailleurs, Vincent. Je ne sais pas si vous les avez vus en marchant avec nous, mais voilà, ils sont ici, très exactement, au début du chemin. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement, comme espèce?
Alors ça, ceux-là sont pas comestibles, je pense que c'est des petits mousserons, mais on a en ce moment des coulemelles, ou la lépiote élevée.
Oui, ça c'est beaucoup plus costaud quand
c'est
même
beaucoup
déjà.
Plus gros, hein. C'est presque comme un steak.
Oui, c'est ça, il y en a ici effectivement, vous les avez ramassés, on peut les manger donc. Hein.
Absolument, ouais. Oui.
Alors on va se balader, on va avec Camille pénétrer un petit peu dans la forêt ici, donc c'est un environnement évidemment que vous connaissez bien. À quel moment vous avez commencé à passer des nuits seules quand vous étiez enfant dans cette forêt? Parce qu'à l'âge où en général on a peur des animaux sauvages, vous alliez directement passer la nuit avec eux quasiment?
Oui, mais je pense que ça, c'est plutôt chouette d'appréhender un peu nos angoisses assez tôt. En tout cas, moi, je tire encore mon chapeau à mes parents qui m'ont permis de partir seul avec mon vélo, mon duvet dans le sac à dos, une paire de jumelles.
Et vous aviez quel âge?
J'avais 12 ans, 10-12 ans. Et maintenant, c'est devenu de plus en plus dur, c'est de plus en plus rare pour les enfants. Et je trouve que ça, c'est quand même important pour justement apprendre à connaître tous les sons de la forêt qui peuvent être assez
effrayants parfois.
Rien qu'un petit hérisson parfois dans des feuilles mortes, on a l'impression que ça peut être vraiment un énorme sanglier. Mais parfois ça peut l'être.
Ouais, oui, parce qu'on en croise des maousses costauds, hein, ici.
Vous avez eu justement des petites mésaventures, parce qu'il y a évidemment tout l'émerveillement, mais peut-être que ça vous est aussi arrivé, je sais pas, de faire une mauvaise rencontre et de là pour le coup partir en courant ou je sais pas, même carrément vous emplâtrez un sanglier, je sais pas.
Oh, c'est assez, franchement, c'est assez rare, surtout dans les Vosges.
Ils fuient les animaux quand même.
La plupart de mes angoisses et de mes craintes, j'avoue que c'est l'homme. Hein. J'ai peur, en effet, quand, pas plus tard qu'hier, on était en famille dans une forêt, il y avait une traque de chasseurs, on ne savait pas. C'est ça qui me fait le plus peur. Quand je suis à l'étranger, parfois c'est des braconniers, et rarement les animaux. Ça peut arriver, mais franchement, rarement. Les animaux qui peuvent nous causer des soucis, c'est en effet à la limite un ours polaire quand je suis en expédition en Arctique. Ici, on risque pas d'en croiser, mais sinon, non, c'est plus avec l'homme.
Est-ce qu'on peut vraiment parler ici, Vincent, d'une nature sauvage, telle qu'on peut l'imaginer, justement?
C'est une bonne question. Non, c'est quand même une sauvage. Il y a des petites notes. Je sais que moi, je me sens bien quand je sens qu'il y a un ordre, un équilibre un peu partout. Et pour moi, là, c'est un peu du sauvage, où on sent pas trop la main de l'intervention de l'homme. Mais j'avoue que c'est de plus en plus dur. Dans les Vosges, on l'a un peu dans les contreforts, quand dans les versants très pentus ou dans des éboulis avec des érablés, où là il y a un petit côté un peu forêt primordiale où on a l'impression que tout est en ordre, et ça me plaît beaucoup. Mais après, le sauvage, non, on a artificialisé la montagne de plus en plus, c'est certain.
Ouais. Alors cette montagne d'automne, puisque c'est l'objet de cette première saison de la Terre au Carré, on la vit quand même pleinement ici, parce que ce paysage, quand on se balade sur la route des Crêtes par exemple, auprès des lacs, enfin, on a vraiment un spectacle extraordinaire de lumière. Quand on se lève tôt le matin, il y a la brume qui semble enrouler comme ça.
On croise aussi des animaux, hein. Moi hier j'ai vu un renard et 5 biches, donc c'est quand même pas mal.
Oui, non, mais c'est certain que ces ambiances, je pense, vosgiennes, avec toute cette humidité qu'on a quand même de moins en moins, je tiens à signaler, depuis 3-4 ans, c'est hallucinant, on a des sécheresses de folie. Mais cependant, à cette période, on a des mers de nuages dans les fonds des vallées qui donnent quand même une atmosphère assez magique. Et ça a probablement influencé un peu mon style photographique, parce que ces ambiances de brume, une fois de plus, on est dans l'érotisme, on dévoile un tout petit peu, non mais c'est vrai, vraiment, c'est à des petites touches, et on est vraiment dans la suggestion plus que dans quelque chose de... Et avec papa, avec mon père, on a fait un livre qui s'appelle Clair de brume, et vraiment que dans ces ambiances de brume, de magique, qui sont quand même assez ancré dans les Vosges.
L'érotisme vosgien se dévoile donc cet
après-midi. Photo animalière érotique.
Dans la Terre au Carré.
Alors,
hier, Vincent Munier, j'avais rendez-vous avec des gens que vous connaissez bien, mais côté alsacien, près du Grand Ballon, avec Alain Laurent et Valérie Sérillon, qui font partie de l'Observatoire des Carnivores Sauvages, justement. C'est une association pour l'étude et la conservation de ces animaux. Et ces deux naturalistes m'ont emmené sur les traces des loups et des lynx, dont ils étudient les populations.
Ben là, on est sur les contreforts du Grand Ballon. Donc le plus haut sommet du massif vosgien, donc un secteur qui est fréquenté régulièrement par le lynx et puis quelquefois par le loup.
Valérie, vous en avez déjà croisé, vous, des loups ou des lynx pour de vrai?
Non, malheureusement, je dois aller dans des parcs pour cela.
Et vous, Alain?
J'ai eu la chance de les observer de visu, de les photographier même. Le lynx, bien sûr, puisque depuis 83, il a fait son retour dans le massif vosgien. Et le loup, en 2017, la dernière fois, également, dans le massif où on se trouve.
Ouais, et dans quelles conditions, racontez-nous votre rencontre avec le lynx?
Ah ben, le lynx, on est exactement sur le site où j'ai rencontré le premier lynx dans la vallée.
C'était ici, là?
C'est ici même, absolument, oui, un mâle qui fréquentait, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est assez déconcertant parce que c'est un animal très nonchalant, très calme, même s'il ronronne et que ça peut impressionner parce que c'est beaucoup plus puissant qu'un chat, ça reste un animal complètement inoffensif. Ouais.
Alors Valérie, quand on veut aller sur les traces des carnivores ici dans les Vosges, donc on a des moyens pour essayer de les observer. Donc ici, dans cette zone par exemple?
Alors déjà, on a tout un réseau de pièges photographiques. Donc déjà, ça commence par ça, qui vont prendre soit des photos, soit des vidéos, des empreintes, crottes, excréments, poils également, parce que les animaux, notamment les lynx, vont se frotter sur des arbres, sur du bois coupé par exemple, sur un banc.
Ah oui, ça c'est pour les poils, d'accord. Voilà. Expliquez-nous alors.
Ça c'est...
Donc on est au pied d'un arbre.
Oui, c'est un peu l'ancêtre, on va dire, du piège à poils. Un petit tapis assez rugueux pour qu'il puisse venir se frotter dessus, puisque les félidés, et le lynx en particulier, a besoin de marquer très régulièrement son passage sur son territoire.
J'aimerais bien voir un lynx quand même. Ouais, ce serait un sacré coup de bol. Mais bon, parfois c'est la chance du débutant aussi, Alain. Hein.
Donc, voilà, on y est. Donc sont déployés environ 80 pièges photos sur l'ensemble du massif. Alors il y a différents types de piégeage. Il y a du piégeage aléatoire, c'est-à-dire qu'on pose des pièges, voilà, parce qu'on a on a du pif, on se dit que c'est là que peut passer un animal. Et puis, il y a du piégeage en réseau, c'est-à-dire qu'il y a des zones où plusieurs appareils sont posés à plus courte distance pour essayer de vraiment préciser les zones de passage.
Valérie, quel est l'intérêt finalement d'avoir ces animaux ici, dans la forêt vosgienne, en 2021 ?
Ah mais c'est pas comme ça qu'il faut qu'on se pose la question, c'est leur habitat, c'est leur zone potentielle de présence. Donc c'est complètement naturel qu'ils puissent réinvestir la région en fait.
La déprise agricole s'observe partout.
Ça veut dire quoi, pardon, la déprise agricole ?
En fait, voilà, plein de territoires qui ne sont plus pâturés, qui ne sont plus entretenus par les animaux domestiques, par les agriculteurs, les éleveurs eux-mêmes, parce qu'il y en a de moins en moins, tout simplement. C'est l'homme, en réalité, par l'abandon de ces zones-là, qui reconstitue un habitat favorable aux proies, avant tout. Tous ces habitats sont occupés actuellement par les cervidés, par les sangliers, par les chamois, et finalement, le prédateur, qui profite quelque part de son statut de protection, eh bien, regagne du terrain et puis arrive voilà, jusque dans nos massifs secondaires partout en France. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'ils ont leur place dans tous les sens du terme. Il y a vraiment tout est disponible pour eux et faut que l'homme accepte de leur laisser cette place.
Vincent Munier, est-ce qu'ici on connaît les mêmes problèmes de cohabitation entre les hommes et les animaux sauvages, et les lynx et les loups en particulier? On entend peu parler quand même de tensions comme dans les Alpes ou les Pyrénées, non?
Oui, tout à fait. Alors, c'est parce qu'on a une population qui est beaucoup plus qui est très limitée. On a quasiment pas de lynx. On a 3-4 mâles qui se baladent. Il manque de femelles. Les loups, ils font que passer. On a du mal vraiment à les accepter. Alors qu'il y a un potentiel proie énorme. On a une grosse densité d'ongulés, donc dans des cerfs, des sangliers. Donc, on a quand même de moins en moins de chasseurs. Dans les années 70, on avait 2 millions de chasseurs. On n'en avait plus qu'un million. Ça baisse. Et le prédateur naturel a sa place. Il n'y a pas meilleur gestionnaire qu'un prédateur naturel. Et dans les Vosges, non, on a de quoi accueillir une ou deux meutes, évidemment. Mais ça, il y a un gros travail de pédagogie, et ça nous fait du mal. Pour revenir sur le côté sauvage, voilà, moi je serais ravi qu'il y ait tout le monde, quoi, qu'on soit en ordre. Et là, on serait dans le sauvage.
Alors, on entendait donc Alain Laurent et Valérie Sérillon de cet observatoire des carnivores, dont le siège est à Gesaus en Alsace, et leur page Facebook est en lien, évidemment, sur la page de la Terre au Carré. Est-ce que le lynx ici est en danger? Est-ce qu'il est braconné ou pas? Ou c'est quand même... C'est une espèce protégée.
Il est braconné, il y a des cas assez récents là, Fellerin, c'est pas très loin d'ici, côté alsacien, qui s'est fait braconner. C'est encore une par méconnaissance une fois de plus, parce que quand on connaît l'animal, évidemment que l'homme ne risque rien avec le lynx, ça il faut bien le marteler, c'est quand même juste un gros chat, et il y a les gens qui n'acceptent pas la compétition, parce qu'on leur mange leur chevreuil, et ça c'est complètement aberrant, parce qu'il va manger, il va attaquer en effet un chevreuil, mais il en a pour 5-6 jours, il remet des feuilles dessus, il revient chaque nuit dessus. Et encore une fois, il fait ça d'une manière la plus simple et naturelle, beaucoup mieux que nous, que les chasseurs.
Vous, finalement, ça fait 2 fois que vous parlez des chasseurs, Vincent Munier. Vous avez votre permis de chasse vous-même, mais l'argument de la régulation souvent sorti par les chasseurs, quelque part, vous le mettez un peu en doute?
Ouais, c'est un peu dur. Moi, je trouve que la chasse à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui me, voilà, un certain irrespect de leur proie. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec des récits comme d'Erzou Zala, de Arseniev, qui est un chasseur finalement, mais un chasseur qui est respectueux, qui connaît son. Et là, il y a un côté assez pathétique dans la chasse actuelle, quoi. C'est ça qui me chagrine énormément, c'est qu'il y a une grande méconnaissance générale sur l'écologie. Et du coup, on est dans des déviances. Et là, en ce moment, on est face à une population de sangliers, c'est juste hallucinant, qui perturbe tout l'écosystème. Et c'est quand même dû aux chasseurs, parce que...
Eux vont dire, il faut justement qu'on soit là pour les réguler. C'est ça, c'est le serpent qui se mord la queue.
Il faut réparer les erreurs qu'ils ont faites, de les nourrir à outrance. Et puis, on avait des reproductions de sangliers en plein hiver, même plusieurs dans l'année. Donc là, non. Et le sanglier, on parlait du lynx juste avant. La disparition du lynx aussi, c'est du braconnage, mais ça peut être aussi lié au sanglier, qui, dès la première nuit, va manger la proie du lynx, qui lui en a pour normalement 5-6 jours, et il doit redépenser de l'énergie pour chasser. C'est très dur pour un lynx de chasser une nouvelle proie, et il peut mourir d'épuisement.
Vincent, avant d'accueillir votre papa, je suis au pied du chêne, ce chêne majestueux qui trône vraiment ici dans votre pré. Il a quel âge?
Pour moi, il a encore plus de valeur que la ferme. Il est plus âgé probablement. Il a plus de 300 ans, hein. C'est dur de dire, mais c'est un monument. Absolument.
Il est très très beau, effectivement. Et, voilà.
Mathieu caresse le chêne. Mais oui. Pour les gens, sachez-le, Mathieu caresse le chêne.
J'aime beaucoup mettre la main sur les cornes.
On voit que le lierre commence à l'envahir tout doucement, et c'est même pas. Et ça va être très beau, ça va être magnifique. On voit que le houppier est en train de mourir, mais il faut le laisser. Une fois de plus, les arbres morts, finalement, il n'y a rien de plus vivant parce qu'ils accueillent une quantité d'espèces.
Pour revenir à votre travail photographique rapidement, Vincent Munier, on parlait des lynx, entre une photo de lynx ou une photo d'un sanglier, pourquoi vous allez choisir le lynx, par exemple ?
Je suis franchement curieux de tout et quand je pars le matin en balade très tôt, hein, je suis vraiment à l'aube et au crépuscule, mes yeux, enfin je me régale de plein de choses. Lynx, même un sanglier, je peux avoir un moment incroyable avec un face à face avec une grosse bête noire, hein, et ça peut être aussi bien. Tout à l'heure il y avait un petit rouge-gorge, ça peut être une citelle et bouvreuil. Donc non, je fais pas de. Mais c'est certain que les grands prédateurs, on leur a tellement fait de mal, on a dit tellement de bêtises sur parce qu'on était en compétition avec eux, que j'ai envie un peu de montrer leur utilité, quoi, et leur noblesse, parce que c'est pas simple finalement une vie d'un loup, une vie d'un lynx.
C'est la saison 1 des 4 saisons de la Terre au Carré. Nous fêtons l'automne dans les Vosges et dans un instant, Vincent Munier, on fera connaissance avec votre papa, Michel.
Jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps hier. J'écris sur tout ce que je pense. J'écris sur tes sons coquillards. Mais sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis. T'aimes la vue que tu me suis. Tu comptes sur mes économies. T'es ma que pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise. Bientôt j'abandonne le vice. C'est pas loin, j'prends vice de mer. J'calme mes nerfs, joue avec ER. Tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais ER. Tango. J'balance des bras sur une compo. Moro.
Les 4 saisons de la Terre au Carré, l'automne dans les Vosges.
Et c'était Damso avec Morose. Nous sommes au haut du taux, 800 mètres d'altitude, dans le paysage que Vincent Munier a la chance de voir tous les jours, avec cette nature exceptionnelle. Et voilà. Et on a cet arbre aussi très très haut, hein, Vincent.
Là, c'est le frère de l'autre. Là, je pense que les respect pour les anciens qui ont eu l'idée de les planter, ces chênes multicentenaires. Avec quelques nichoirs.
Oui, vous me disiez, hors antenne, c'est la crise du logement pour les oiseaux ici.
Eh ben, avec ces forêts assez industrialisées, hein, c'est vrai qu'on est, on est victime de ça. On est presque dans de la monosylviculture, comme on dit, comme des champs de maïs, mais pour la forêt. Eh ben, ça manque cruellement de cavités, c'est certain. Et là, je le vois. Moi, j'ai mis une trentaine de nichoirs autour de la maison. À chaque printemps, ils sont tous occupés. Et pareil en forêt, quoi, plus loin. Et les petites chouettes, on manque de vieux arbres. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire. Et ça, c'est tout le travail, en effet. Du groupe Tetra Vosges, entre autres, et c'est essayer d'avoir une diversité dans toutes les âges, dans toutes les essences.
Vincent, on va faire connaissance avec votre papa tout en pénétrant dans le sous-bois, avec beaucoup de feuilles mortes ici sous nos pieds. Et vous aviez vraiment envie de nous faire, de nous présenter votre père, hein?
Oui, ben au début d'émission, je vous l'ai dit, hein, je pense que je lui dois tout. Il m'a appris, voilà, à ouvrir les yeux sur des choses qui paraissent ordinaires et qui sont extraordinaires.
Bonjour Michel.
Bonjour.
On est très heureux de faire votre connaissance. Vous êtes naturaliste et défenseur de la nature dans la région depuis très longtemps. On va parler d'un animal que vous aimez tout particulièrement et on va en discuter avec vous puisque Camille a enquêté sur ses traces. Donc on pourra commenter justement tout cela autour de cet animal puisque c'est déjà l'heure de Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Cronier avec toute cette semaine donc des luttes et des combats ici dans les Vosges.
Oui, je vais vous parler donc de l'un des emblèmes du massif vosgien. Il est partout, il est sur les blasons, les noms de routes, les chalets, les pistes. Et il y a même une équipe de basket qui porte son nom, le Grand Tétra. Partout, sauf dans la forêt, ou presque désormais. Écoutez plutôt.
D'après les derniers comptages, on a moins de 50 individus matures, ce qui est une classification dramatique en fait pour l'espèce, puisque c'est les individus matures qui se reproduisent.
On était à 500 oiseaux dans les années 70. Actuellement, voilà, on est sur, Alice a dit en dessous de 50, on pense qu'on est en dessous de 20.
Alors c'est Françoise Prêt et Price et Alicia Charena qui parlent, les deux permanentes du groupe Tétra Vosges. Elles travaillent pour la survie de l'espèce et je les ai rencontrées ce matin en lisière de forêt pour en apprendre donc un peu plus sur ce drôle d'animal dont la population a été divisée, on l'a dit, par 10 en 50 ans ici dans les Vosges.
C'est vraiment lui le symbole de ces vieilles forêts, c'est aussi un symbole de quiétude aussi de ces espaces-là.
C'est qui alors le grand tétra? Vous pouvez m'en parler parce qu'on le connaît pas très bien. C'est un oiseau déjà.
Oui, c'est un gros oiseau. Hein. C'est le plus gros oiseau forestier qu'on ait en Europe. Et il fait entre 3 et 5 kilos. Voilà, c'est une espèce de gros dindon pour ceux qui connaissent un petit peu les dindons dans nos basses-cours. C'est un gallinacé, c'est de la même famille que nos poules de basses-cours, qui est piéteur, enfin essentiellement piéteur. D'ailleurs, les Écossais l'appellent aussi cheval des forêts. Mais il est capable de voler, hein, c'est un oiseau. Hein. Mais comme on dit, son mode de déplacement, c'est essentiellement la marche.
Ce solidaire a donc besoin d'un habitat assez dégagé pour voir venir de loin les prédateurs prêts à le croquer. Mais lui reste très discret à part quelques indices laissés derrière lui.
Alors, ça, donc c'est quoi? Vous avez des crottes de grand tétra, des crottes d'hiver.
Bah, souvent ça fait rire quand on est à l'apéro parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à un curly.
J'osais pas le dire. Et j'en avais déjà vu.
Vous avez des crottes de grand tétra, des crottes d'hiver.
Bah, souvent ça fait rire quand on est à l'apéro parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à un curly.
J'osais pas le dire. Et j'en avais déjà vu un quand même ou pas en vrai?
Je suis là seulement depuis 2 ans. J'en ai vu en tout dans les suivis de...
Et alors, pas souvent.
Ça fait pleurer.
Le tétra pour nous c'est l'âme des vieilles forêts. Donc quand on le voit, c'est quelque chose, c'est sûr, qui est très prenant. Je pense que qui nous rappelle, qui nous ramène peut-être aussi à nos racines.
Alors est-ce qu'on va l'entendre quelque part? Bon, j'ai les vidéos aussi, je sais pas si on l'entend.
Alors ouais, vous aurez bien compris hein, qu'on n'en verra pas passer sous nos yeux, Mathieu. Donc on fait avec des vidéos prises grâce à une quarantaine de pièges photo installés dans tout le massif pour voir mieux à quoi ressemble le grand tétra.
Il grignote là un petit peu donc sur des arbustes.
Ah, il mange ouais.
Ouais. Il est très foncé. Enfin, il a quand même des reflets roux.
Ah là, on le voit dans la neige là.
Quand il est en parade, il va déployer sa queue et il va faire des petits sauts, des petits bonds en fait, où il va faire des froufrous avec ses ailes. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur l'image. Hein.
C'est ce qu'on appelle la danse. C'est un moment bien précis au moment de la parade.
Et on va l'entendre là ou pas alors?
C'est particulier comme chant.
Ouais.
C'est pas.
C'est pour ça, ça m'intrigue
ouais,
quand même.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Alors, vous êtes prêts donc pour le son?
Ah oui.
C'est parti. Voilà. Vous pouvez m'expliquer quand on fait tic-tic, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et là, hop, le pop, vous l'avez peut-être entendu. On dit qu'on débouche la bouteille ou...
Un coup de bouchon.
Vous allez l'entendre. Voilà.
Et comment il fait ça? Tout ça, c'est très guttural, en fait. Hein. C'est vraiment avec le fond de la gorge. Ça, c'est ce qu'on appelle un cri de cochon. Mais des forêts où on a connu le grand tétras et ces forêts qui se taisent, c'est terrible à vivre, humainement parlant. Hein. Là, on n'est pas du tout dans la technique, hein, comment dire, je ne vous parle pas en tant que technicienne de mon travail. Ouais, c'est plus que de l'émotion, je pense que c'est toutes nos fibres et toutes nos cellules qui parlent quand on perd une espèce. Oui, je crois qu'on peut se poser des questions, nous, en tant qu'êtres humains, en termes d'éthique.
Et oui, parce qu'en plus des prédateurs naturels, ce sont bien nous les responsables du déclin, et cela malgré l'interdiction dans les années 70 de la chasse au grand tétras dans les Vosges, qui est toujours autorisée dans les Pyrénées par contre.
Ici on est sur un massif qui est vraiment hyper fréquenté, on a la plus grosse densité de sentiers sur un massif forestier comme ça.
Et pour assurer la survie des adultes, c'est limiter le dérangement.
C'est quoi la solution alors?
Mais c'est qu'on adopte chacun un comportement en milieu naturel qui n'est pas un comportement de consommateur et qu'on intègre qu'il y a des habitants dans nos forêts.
Ils ont besoin qu'on respecte un peu leur intimité en fait.
C'est une lutte à vos yeux ce que vous faites?
C'est une forme de lutte quelque part.
Moi, c'est clairement une lutte, mais après, faut pas le voir comme une grande guerre. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est très doux, en fait. On est dans un travail de deuil et en même temps de construction. Quels sont les animaux là qui sont autour de nous, qui méritent encore qu'on se batte? Et du coup, c'est pour ça. Pour moi, c'est quand même une lutte. On se bat pour quelque chose de beau. Et quand on se pose ici, ben, ça nous fait du bien, en fait. C'est une belle lutte.
Une belle lutte que Françoise Price et Alicia Charena mènent tous les jours sur le terrain, en coopération avec les forestiers.
Et c'était Camille Passauvert en direct ici des Vosges au Haut du Taux.
Michel Munier, vous avez écouté ce sujet. Il y a un élément dont on n'a pas parlé mais qui n'arrange pas du tout les affaires du grand tétras depuis quelques années, c'est le réchauffement climatique. La neige est de plus en plus rare ici aussi dans les Vosges. C'est un problème pour le grand tétras. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, c'est une espèce boréale, hein, donc un animal qui vit sur 5 à 6 mois de neige. Donc lorsque la forêt est recouverte de neige, eh bien pour d'autres animaux, il y a pas possibilité de se nourrir. Donc on a un taux de prédateurs qui est beaucoup plus faible. Et maintenant que les hivers sont sans neige quasiment, le taux des prédateurs a augmenté. Et l'impact sur le tétras, qui est un oiseau piéteur, qui reste au sol, est assez terrible. Hein, plus de prédateurs, donc plus de prédation sur cet animal, un animal qui a besoin de se déplacer au sol, mais un sol recouvert de neige, là où il voit les prédateurs très loin.
Oui, parce que sur le blanc de la neige, forcément, on voit mieux arriver un méchant.
Tout à fait. C'est un peu quand on le voit se promener sur la neige, on le sent détendu. C'est assez extraordinaire de voir cet oiseau-là marcher calmement. Par contre, quand il y a de la végétation en été, on le sent beaucoup plus tendu. Il est sur la défensive. Et là, bien sûr, parce que chaque cache peut être un piège, un prédateur peut être là.
Oui, Vincent, il y a cette expression qu'on vient d'entendre dans le reportage de Camille, le silence de la forêt. C'est une expression qui est assez effrayante, mais qui résume bien finalement ce que vous vivez ici. Hein.
Le silence, ça fait écho aussi au fameux livre de Rachel Carson, Le printemps silencieux. Et on ressent ça quand on est dans une forêt de manière industrielle. Ce qu'on avait là, ce qu'on a en ce moment dans les Vosges, les pessières, des épicéas en randonnion. Et là, on a l'impression qu'il y a plus de son, il y a plus d'odeur non plus. C'est presque un désert écologique. Et on se sent tellement mieux dans des forêts à milieu de grands tétras, justement. Cet oiseau nous amène un peu, nous indique le chemin qu'il faudrait avoir, des forêts variées, diversifiées, avec différentes essences. Et là, on sent que la vie foisonne, quoi, tout simplement.
Michel, est-ce que les combats que vous avez menés autour de l'environnement dès les années 60, hein, ici dans la région, étaient les mêmes qu'aujourd'hui ?
Non, déjà dans les années 60, c'était véritablement un paradis. Bien sûr, il y avait quelques installations déjà, les infrastructures pour le tourisme, les pistes de ski de descente, mais il y avait la part des bêtes, il y avait la zone des bêtes et la zone des hommes. Et ensuite, bien sûr, il y a eu le ski de fond, les raquettes et tout ça. Donc le tourisme a envahi l'ensemble du massif. Donc le combat est arrivé plutôt dans les années 80, où vraiment on s'est dit non mais ça ne peut plus aller. Et donc ça a été une démarche très difficile à partir de ce moment-là.
Vincent,
que personne ne voyait, mais qui gênait finalement tout le monde, qui gênait le développement économique. Donc c'est vrai qu'il c'était difficile pour lui.
Michel Munier.
Oui, effectivement, je crois que c'est le gros problème, c'est qu'on veut protéger une espèce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est quand même très difficile de faire passer ce message auprès du public et des gens du tourisme. On voudrait développer le tourisme et pouvoir voir des tétras. Mais ça, non, c'est une espèce sensible.
On aura un reportage sur le surtourisme d'ailleurs cette semaine avec Camille également.
Justement, Vincent Munier, votre père vient de dire cette phrase, on veut protéger des espèces qu'on ne voit pas. Est-ce que la photo est un moyen de sensibilisation, mais parfois un peu contre-productif parce qu'on les voit en photo, donc on a l'impression qu'ils finalement ils sont là, toujours autour de nous et restent un peu dans notre imaginaire?
Oui, ben un peu. Je sais que bon, la photo. Moi, j'ai beaucoup de doutes hein, par rapport à mon métier. Je sais que c'est quand même assez fabuleux pour sensibiliser les gens. C'est là vraiment les livres, les photos qui moi m'ont vraiment ému étant gamin et qui m'ont fait prendre aussi une direction différente. Donc, c'est quand même important, mais pas suffisant. Il ne faut pas que ça soit vraiment une finalité. Et il y a tout autre chose. Mais ça peut amener à la découverte et l'émerveillement des choses. C'est surtout ça. Mais la poésie, la musique, le dessin. Il y a plein d'autres activités qui peuvent nous y emmener.
Michel Munier, vous dites que vous avez un rapport quasi spirituel face à la biodiversité dans vos pratiques d'observation. Ça veut dire quoi exactement?
Écoutez, oui, en fait, pour observer cet oiseau qui se rassemble au printemps, et pour ne pas le déranger, il faut passer des nuits entières, c'est-à-dire arriver dans l'après-midi et passer toute la nuit sans bouger sous un sapin, pas dans un affût, parce qu'on ne peut plus entendre. Donc on est carrément pendant 18 heures, 20 heures, en bougeant peu, voire ne pas bouger. Et donc ce sont des instants de méditation. Donc c'est effectivement, c'est quasi spirituel, oui.
Mais c'est drôle parce que quand je vous parle de la nature ou de la biodiversité, vous revenez toujours au grand tétras finalement. Hein.
Non mais il est possédé. Est possédé parce qu'il a passé quand même plus de 600 nuits. Encore, il a arrêté au bout de 600 nuits sous un sapin, juste, même pas pour le voir, juste l'écouter ou le protéger en périphérie des places pour tenter de le protéger. Et donc c'est ça qui est fabuleux, hein, ce parcours complètement ciblé sur une espèce et finalement qui t'a appris énormément de choses.
Ah oui, exactement. Hein. C'est en fait quand vous passez 20 heures, parfois vous ne le voyez pas, vous entendez un chant de 10 minutes et c'est tout. Sur les 20 heures de stationnement, parfois même plusieurs jours. Hein. Mais en fait, ça vous apprend à regarder, à écouter les restes des autres bruits et à découvrir en fait son environnement, l'environnement global. Hein, sa forêt, les ambiances, et ça c'est assez puissant. Alors bien sûr, on découvre en même temps d'autres espèces, hein, et cet oiseau qui disparaît maintenant, c'est vrai que c'est assez déchirant, parce qu'on pourrait le voir comme un échec. Mais en fait, tout simplement, il nous a appris à être humbles et à se dire, ben non, voilà, maintenant c'est terminé, là il ne peut plus être là, mais il y a d'autres espèces. Je crois que ce qu'on appelle un combat, ce qui n'est pas un combat, mais la démarche qu'on a auprès des gestionnaires des forêts doit se poursuivre pour sauvegarder les autres espèces.
Vincent Munier nous racontait tout à l'heure, Michel, ses sorties à 10-12 ans pour justement aller voir un petit peu, aller guetter des animaux sauvages. Vous venez d'utiliser cette expression, apprendre à regarder. Comment vous lui avez appris à regarder?
J'ai pas appris. Je pense que l'apprentissage, c'est pas par les mots, c'est par la démarche. Donc tout simplement, il m'a un peu talonné. Hein, c'est le dernier des trois enfants. Il m'a talonné, puis je sentais que voilà, il était pris un peu au piège de cette beauté vivante et mystérieuse. C'est ce côté mystérieux. Donc il m'a suivi, puis rapidement, il a compris ce qu'il fallait faire. Quand nous-mêmes, avec nos habitudes de personnes d'un certain âge, on voit ce qu'il faut faire, mais on a du mal d'arriver à briser ce qu'on voudrait. Et lui nous entendait, il entendait ce qu'il fallait faire, et très jeune, donc il a intégré un petit peu ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que très rapidement, il a pris cette démarche.
Quand il partait comme ça, à 10 ans, le soir, tout seul, là, aux parents qui nous écoutent, et qui peut-être ont des enfants qui voudraient partir, et qui rechignent un poil à les laisser aller vagabonder seul. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces parents-là ou à des enfants aussi qui nous écoutent?
Quand on connaît le milieu, l'environnement de notre secteur, la forêt, quand on a vécu très longtemps là, on voit qu'il n'y a aucun danger. Hein. Il y a beaucoup moins de danger en forêt que dans une ville. Donc on préférerait à la limite qu'il aille passer ses nuits en forêt en ville avec des copains. Donc c'était vraiment, pour nous, c'était rassurant. Non, on n'a jamais eu d'angoisse quand il partait tout seul.
Vos frères et sœurs, Vincent, ont la même passion pour la nature que vous ou pas?
Oui, on a eu un peu les mêmes valeurs très tôt. Donc oui, Sylvain, mon frère, est dans le canoë, donc il est sur l'eau, et avec une sensibilité évidemment. Et ma sœur aussi, qui fait de la danse biodynamique, qui est très en connexion avec le sauvage. Donc oui, je pense qu'on est tous les trois un peu piqués par tout ça. Et non, pour rebondir, je pense que ça, c'est un des gros malaises de la société, c'est que les jeunes, je pense qu'à 10, 12 ans, 13 ans, il se passe des choses, il y a des déclics, et il faut vraiment les amener en forêt, vraiment, il faut les amener à les toucher la terre, dormir dehors, apprendre, les emmener après qu'ils vivent ça un peu tout seul, parce que c'est quand même beaucoup une activité de solitaire, c'est important. Quand on est à deux, tout de suite, on peut communiquer, c'est différent. On n'est plus, mais tout seul, vraiment, en forêt ou ailleurs, hein, ou dans le sauvage, on se prend tout, tous nos ports sont ouverts pour, et je trouve que c'est beaucoup plus fort. À tout niveau, toutes les émotions, alors les angoisses sont aussi plus difficiles à gérer, mais quand il se passe quelque chose, quand on est face à un animal qui tout près là, c'est encore beaucoup plus fort, quoi. Même un renard ou n'importe quelle petite bête. Donc ça, j'ai envie de dire, là, il y aurait un gros problème. Enfin, au niveau de l'éducation nationale, il faut vraiment ramener les gamins dehors, quoi.
La classe dans la forêt, par exemple, là où nous sommes, dans ce sous-bois.
En ayant des comportements, Michel Munier, on le disait tout à l'heure dans le reportage sur le Grand Tétras aussi, des comportements exemplaires, c'est-à-dire que rester sur les sentiers, par exemple, ça paraît bête, mais c'est déjà la base.
Oui, en fait, il faut connaître le milieu forestier, là où vraiment... on sait qu'il y a des espèces sensibles, eh bien on doit rester sur les sentiers, suivre les sentiers. Par contre, si on connaît des forêts où il y a moins d'espèces sensibles, à proximité des villes, eh bien faut amener les enfants parce qu'il y a tout. Les enfants découvrent tout, et avec des petits bouts de bois, des feuilles et tout, ils s'émerveillent. C'est assez incroyable.
Il y a un message qui nous parvient de Anne qui nous dit « Les transmissions faites par Vincent Munier et ses photos sont absolument essentielles. Elles nous rappellent l'importance de notre origine et de l'écoute de notre terreau là d'où l'on vient. Merci à lui, à son père et à vous pour le partage. »
Non mais c'est gentil, des fois on n'a plus trop la foi, on se dit non, mais ça donne envie. En tout cas moi c'est le regard des enfants sur mes images, les yeux, oui, avec des sourires dedans qui font que j'ai envie de continuer à partager tout ça, vraiment, vraiment.
Allez, on se retrouve dans un instant en direct du haut des taux, du haut du taux dans les sous-bois, donc vosgiens, juste après Pierce Faccini.
Terre au carré dans les Vosges, c'est sur France Inter. This house of ours, born and chained. This house of ours, where no one reigns. Forget my name and our abode. Abandoned ship aboard the cold. I was at the bridge, the fuel spent. You were at the turn, but why repent? I was at the drop, abandoned. No, I was on my knees, unbreakable.
Pierre Sfaccini à l'instant sur France Inter. Mais c'est pas l'automne dans les Vosges pour cette saison 1, c'est l'été dans les Vosges.
Mais est-ce qu'on doit s'en réjouir, Vincent Munier? C'est vrai que là, il fait, bon, il fait pas 25 degrés, mais il y a grand soleil. Ouais. On n'a pas de manteau. On a un pull, mais on n'a pas de manteau. Est-ce que vous voyez comme ça les, j'allais vous demander tout à l'heure de nous décrire le paysage en plein hiver, mais vous me dites, en fait, il y a presque plus de neige.
Oui, et puis moi souvent du bon temps pour moi c'est celui qui change quoi, et j'aime beaucoup la pluie, c'est évident. Là on a des gros soucis de source aussi, hein. Et justement parce qu'on a plus des hivers très rigoureux comme à l'époque où il y avait un manteau de neige qui restait pendant plusieurs mois. Donc là on est face à des hivers qui sont très irréguliers, parfois sans neige ou parfois une grosse quantité d'un coup mais qui dure pas, qui tout de suite s'échappe. Donc ça c'est quand même un des soucis, hein. Ce beau temps on peut, c'est agréable certes. Mais on a des gros soucis d'eau dans les Vosges. C'est quand même incroyable d'entendre ça alors qu'on avait cette réputation d'une région hyper pluvieuse, quoi.
Ouais, Vincent, il y a un message d'Alain sur franceinter.fr. Merci à vous pour cette leçon de vie et de nature. Robert Hénard devrait être lu par beaucoup plus de monde que par les naturalistes. La démocratisation du numérique ne devient-elle pas dangereuse sans un réel apprentissage de la nature? C'est sa question pour vous.
Je crois qu'il a tout dit, hein. Je suis en accord total. Et Robert Hénard, c'est très bien de le citer. C'était mon second père, enfin spirituel. J'ai jamais connu, mais j'ai vraiment, je me suis nourri de ses écrits, de ses affûts, de ses. Il faut lire Robert Hénard et en effet, c'est perturbant de voir à quel point on n'est plus dans le sauvage, dans la nature, à cause de tous ces outils numériques qui nous envahissent et qui nous détruisent.
Vincent, on peut aussi vous lire, bien sûr, et surtout voir vos photos. La Panthère des Neiges, cette aventure que vous avez menée avec Sylvain Tesson, c'est un livre de photos et de textes, hein, publié chez Gallimard. Et puis le documentaire avec Marie Amiguet qui sortira en salle le 15 décembre, c'est ça, pour reprendre vraiment toute cette aventure autour de la Panthère des Neiges, hein.
Voilà, c'est un aboutissement de plusieurs années de travail, de complémentarité de talents avec Marie Amiguet, Léo Kella. On a eu la chance d'avoir la musique de Warren Ellis et Nick Cave. Nick,
ah oui,
qui chante.
Ouais.
Oui, Nick, ouais. Qui chante les paroles de Sylvain Tesson et qui, avec un titre qui se termine par We Are Not Alone. Et je trouve que c'est vraiment ça, quoi. On a toujours on a l'impression d'être seul comme espèce, mais non, on fait partie d'un tout.
Dominique nous dit, Vincent Munier, ministre de l'Éducation nationale, quoique non, son parcours actuel est bien plus efficace et intéressant.
Non, moi je m'échappe, je me fonds dans la forêt là-bas.
Pendant toute cette semaine vosgienne, Alnaël Verzo s'intéresse aux entreprises qui ont déjà entamé leur transition écologique. Alors aujourd'hui, direction Rue-sur-Moselle, à 40 km au sud-ouest de Gérardmer, où se trouve une usine textile Tissage de France, où on fabrique entre autres des jeans éco-conçus, fabriqués en circuit court. 70 personnes y travaillent. Rencontre avec le cofondateur des jeans 10 1083, c'est leur nom. Il s'appelle Thomas Hurier.
Hop, on rentre. Et déjà du textile. On traverse l'usine. C'est impressionnant, toutes ces machines qui ont l'air d'être effectivement anciennes.
Ah oui, là, il y a quelques siècles de travail dans cette pièce. On est ici dans la filature. C'est ici qu'on transforme les balles de coton en fil. Donc ce coton, il est bio. Quand on le prend dans les mains, on voit le coton compacté.
Là, vous produisez combien de tissus par an, par jour?
Pour faire simple, on peut considérer qu'on tisse à peu près 200 000 mètres de tissus par mois.
Ça fait beaucoup?
Oh ben oui, quand même, c'est pas mal, 200 000 mètres. Si tous les tissus que l'on tissait, c'était pour du jean, par exemple, avec ces 200 000 mètres, ça alimenterait 2% du marché du jean français. Ça vous donne un peu une idée.
Donc là, on entre dans une nouvelle salle à l'intérieur de cette usine. Et là, on voit des bobines, des chariots entiers. Et alors, je ne vous ai pas demandé, Thomas, le coton, il vient d'où? Vous m'avez dit que c'est du coton bio.
Alors, tous nos denims, on les fait avec du coton bio, qui vient de Tanzanie, parce que c'est un pays qui est naturellement très bien irrigué en eau. Donc, il n'y a pas besoin d'irrigation artificielle. On se pose tout le temps la question de faire du mieux possible au niveau environnemental et social. 97% des 100 euros dépensés par nos clients irriguent l'économie locale. Les 3% qui restent, c'est le coton, et c'est nos boutons érivés qu'on achète en Italie, parce qu'il n'y a plus de fabricants français.
Les boutons des jeans.
Les boutons des jeans, ouais.
Ah, il n'y a plus de fabricants en France?
Non.
Bah, voilà, vous savez, prochaine étape, fabriquer les boutons.
Ah, mais on y est déjà. On est en train de travailler avec un fabricant de pneus cloutés de la Drôme. Il est intéressé par désaisonnaliser son activité de fabricant de clous de pneus cloutés, parce que du coup, avec le réchauffement climatique, il y a un sujet de notre besoin à long terme sur ces clous de pneus cloutés. Et donc, on est en train de voir comment détourner son outil de production pour fabriquer des boutons de jean à partir d'une usine de clous de pneus cloutés.
Et alors, il y a un sujet quand même avec le jean, c'est le colorant.
Oui.
Où est-ce que vous colorisez et de quelle façon? Parce que souvent, le problème du jean, c'est les colorants chimiques déversés parfois dans les rivières. Comment est-ce que vous faites, vous?
La teinture, quand elle est une teinture unie, c'est-à-dire quand on fait des jeans de couleur, elle est faite en France. Par contre, quand c'est une teinture indigo, pour des jeans qui se délavent, on n'a plus l'outil de production en France, donc on le fait au plus près en Italie.
Et ça, c'est pas quelque chose que vous pourriez relocaliser ?
Ah, si, c'est évidemment quelque chose qu'on veut relocaliser. Simplement, ça se construit une relocalisation. Il faut certains volumes, ou alors il faut certains savoir-faire, ou alors il faut certaines infrastructures. Et ça, plus on grandit, plus on est capable de le mettre en place.
Et c'est quoi les produits qu'on met pour que ça puisse être délavé comme ça ?
Alors, sur des jeans qui se délavent, c'est de l'indigo. L'indigo, c'est un colorant bleu, ça crée la patine du jean. Comme toutes les teintures et comme tout ce qui est chimique, il y a des produits plus ou moins propres. Il y a des produits labellisés GOTS, il y a des produits labellisés OCOTEX. Et l'idée à chaque fois, c'est de trouver les alternatives les plus propres. Mais en France déjà, quand on fait en Europe, il y a plein de produits chimiques et de colorants qui sont autorisés en Asie et qui ne sont plus autorisés en Europe et en France parce qu'ils sont cancérigènes. Donc en fait, notre but, c'est de relocaliser la filière textile française. Tout l'argent qu'on gagne, il sert à amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. On investit dans la recherche et c'est grâce à ça que dans quelques mois, on va sortir un jean 100% recyclé parce que ça fait des années que tous les profits que l'on fait, on les consacre à la recherche pour l'économie circulaire dans le textile français.
Voilà, et l'idée de Thomas Hurier, le patron de cette usine, c'est de développer le tourisme industriel pour rapprocher les clients des ouvriers et des outils de fabrication. Reportage d'Anaël Verzo, donc à Tissage de France. Allez, on a encore pendant quelques minutes, malheureusement, avec Vincent et son père, Michel Munier. Michel, vous qui êtes un combattant de la nature, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité si on veut vraiment agir efficacement pour sa préservation ?
Ce serait peut-être classer sur de grandes surfaces des zones un peu sanctuaires, en invitant les personnes à y pénétrer, en restant sur les chemins, et retrouver cette démarche lente, silencieuse, humble, et savoir écouter et apaiser. Je crois que c'est vraiment retrouver la richesse du bonheur et non pas courir après des plaisirs futiles.
Vincent, la prochaine expédition ?
Alors j'ai énormément ralenti, hein. J'avoue que là je fais beaucoup de films autour de photos autour de la ferme et j'aimerais bien voilà, j'ai ce projet de filmer justement ce vieux coq là, mon père. J'aimerais bien faire un film parce qu'il est quand même plein de sagesse et puis 50 ans de sa vie pour combattre un oiseau qui est symbole d'une forêt tellement magique que là il y a vraiment beaucoup de choses à y emmener. Enfin je sais pas, marier la belle image, la poésie et puis quelques mots, quelques discours d'un vieux bonhomme voilà qui a passé sa vie à tout ça.
Merci, cher vieux coq.
Oui, voilà, je chante difficilement, mais j'arrive à marcher encore.
Et il y a des beaux coqs ici, en tous les cas. Merci infiniment de nous avoir accueillis au Haut du Taux. C'est terminé pour cette première journée dans les Vosges. Demain, Camille, évidemment, on continue notre périple.
Bien sûr, on enchaîne. On va où ? Au lac de Pierre-Percé, c'est ça ?
Exactement, dans la forêt, pas loin du lac de Pierre-Percé. Amis vosgiens et vosgiennes, évidemment, vous nous appelez pour nous dire votre engagement aussi pour l'environnement dans la région avec le répondeur de la Terre au Carré.
Toujours le même numéro. N'oubliez pas, c'est 24 heures sur 24, donc c'est même si ça vous prend sur les 3 heures du matin, vous pouvez 01 ouais. 56 40 45 45.
Et puis je vous signale que l'humoriste Claude Vanoni, qui nous laissait un message sur le répondeur de l'émission, donnera son spectacle samedi soir à la salle de la Rotonde de Thaon-les-Vosges. Je sais qu'il reste encore des places, donc n'hésitez pas si vous souhaitez aller l'applaudir. Très bonne journée, deuxième étape donc demain. Et ben justement, à demain.
Bon après-midi.